Chers amis, c'est une joie de pouvoir vous retrouver ce soir, une fois de plus, et semaine après semaine, de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir prendre un par un des éléments essentiels de la foi. Je ne sais pas jusqu'où nous mènera cette série, mais ce qui est sûr, c'est que je me plais à vous retrouver chaque semaine et à pouvoir échanger avec vous. Alors n'hésitez pas à partager ce moment avec d'autres. Dans la manière de construire ces moments, cet enseignement, je le fais aussi pour que quelqu'un qui ne connaît pas forcément Dieu, qui ne connaît pas la foi, puisse être interpellé par ce qui est dit, par ce qui est fait, et puisse être connecté avec la réalité de la parole de Dieu, de la Bible. Donc n'hésitez pas à partager ce contenu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne Église Paris Métropole et à activer les notifications pour pouvoir retrouver tous les moments que nous proposons dans ce temps de confinement, dans ce temps difficile pour notre nation, notre monde. Et nous croyons qu'en faisant tout cela autour de la parole de Dieu, nous sommes en train de poser des fondements solides pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Alors, comme vous avez l'habitude, nous prenons le temps de répondre à des questions. J'en ai récolté quelques-unes cette semaine et je ne réponds pas forcément automatiquement la semaine suivante aux questions pour essayer de garder une cohérence par rapport à ce que j'essaye d'enseigner. Mais ce qui est sûr, c'est que je garde bien vos questions. Certaines pourront trouver une réponse dans ce format. Peut-être que d'autres, plus complexes, plus élaborées, ne pourront pas forcément trouver réponse dans ce format, mais je reviendrai vers vous, que ce soit individuellement ou collectivement, pour apporter des réponses, pour que nos questions ne restent pas dans le suspens. Donc, je reviens sur une question qui a été posée par Arsène, qui, je me suis dit, est-ce que j'y réponds parce qu'elle semblait être un petit peu la même que la semaine précédente, posée par Cyrielle. Cyrielle nous avait posé cette question. Est-ce que finalement, certains disent que la pandémie que nous vivons est une conséquence, une punition finalement de Dieu par rapport aux actions des hommes qui le rejettent? Arsène nous pose une question, mais je pense qu'elle est plus précise. Elle dit, est-ce que la pandémie est finalement le résultat des actions des hommes? Alors, s'il pose cette question, c'est peut-être que ma réponse a été incomplète la semaine précédente, et je vais y répondre d'une manière très pratique. Si, j'ai l'impression que cette question est plus sur le côté matériel, la raison, la cause de la pandémie. Et je vous rappellerai cette réalité-là que j'ai enseignée la semaine dernière. Il est difficile de toujours expliquer les choses. L'homme veut toujours une explication. Et on parlait de cela par rapport à la souffrance. On veut souvent une explication à notre souffrance. Et malheureusement, ou peut-être heureusement surtout, Dieu ne donne pas toujours d'explication et nous n'avons pas toujours d'explication. Alors ça, c'est du côté de Dieu. Après, il y a les hommes qui essayent de chercher et de trouver des explications aux choses. Et ça, c'est la course de l'homme à l'information, à la connaissance. Et c'est ce que l'homme fait depuis des siècles, des millénaires, à travers la science, d'essayer de trouver toujours des réponses aux questions qu'il se pose. Nous regardons aujourd'hui cette pandémie et nous posons encore beaucoup de questions. Plein de choses ne trouvent pas réponse. Et je ne voudrais pas dire en tant que pasteur et en tant que homme qui cherche à comprendre les choses de Dieu, je ne voudrais pas aller sur des facilités de réponse par rapport à cela. Personnellement, je ne connais pas la cause de cette pandémie. Il y a beaucoup de théories et il faut faire aussi attention à ne pas rentrer dans n'importe quelle théorie, juste par soif de connaître et de comprendre. Je pense qu'il y a quand même un aspect d'action de l'homme et nous payons quelque part à travers cette pandémie nos modes de vie, et je l'ai déjà dit la semaine dernière. Donc oui, c'est une forme de conséquence aux actions de l'homme, mais d'une manière générale, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est quelque chose, c'est le monde pris dans son ensemble, ça ne sert à rien de pointer du doigt, d'essayer de trouver des responsables, parce que peut-être que oui, on peut trouver à un moment donné que le virus vient d'un endroit ou d'un autre, mais trouver une explication, avoir une réponse, trouver un responsable ne transforme pas le problème. Et moi, je crois que dans ces temps-là, le temps, la saison n'est pas à chercher des réponses à tout, mais à se mettre devant Dieu et à lui confier nos vies, pour que lui prenne soin de nous, pour que lui agisse dans nos vies, agisse dans notre monde, plus que pour qu'il nous donne des réponses. Parce que la réponse en soi, mais pour plein de choses dans notre vie, les réponses n'amène pas forcément des solutions. Mais oui, en effet, nous pouvons constater que c'est une conséquence finalement de l'action de l'homme, parce que nous avons détruit notre planète, nous avons abîmé nos corps, nous avons fragilisé nos écosystèmes, toutes ces choses-là. du moment qu'elles sont bouleversées, elles déraillent, elles ne fonctionnent pas normalement. Et s'il y a une propagation toujours plus importante de virus dans le temps que nous vivons, c'est aussi parce que nous avons eu une influence par nos actions sur le monde qui nous entoure. Ceci étant dit, je vais passer au sujet du jour. Et donc j'ai intitulé cette vidéo Dieu change-t-il? Ça, c'est une question que peut-être vous vous posez. Est-ce que Dieu change dans sa nature, dans ce qu'il est, est-ce qu'il change? Et pour commencer, comme vous êtes habitué maintenant, je vais commencer par cette citation. Je suis retourné dans les pensées de Pascal, vous verrez au fil des semaines que c'est un auteur qui m'est cher. Pascal nous dit quelque chose comme cela, condition de l'homme, deux points, inconstance, ennui, inquiétude. Pascal, en disant cela, essaye de définir l'homme finalement. Et il trouve trois critères qui définissent bien l'homme, l'inconstance, l'inquiétude et l'ennui. Alors aujourd'hui, je verrai pas l'ensemble des aspects, mais je vais m'attacher à ce premier terme, ce terme d'inconstance. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, Pascal nous dit clairement, simplement, que l'homme est inconstant. Alors qu'est-ce que veut dire dans la bouche ou sur la plume, sous la plume de Pascal le terme inconstance? C'est en fait la diversité dans le temps. C'est le constat de la diversité dans le temps. Et c'est-à-dire que l'homme, on constate que dans le temps, il n'est jamais au même endroit. Dans ses idées, dans ses projets, dans ses pensées, dans ses besoins, dans ses émotions, il n'est jamais au même endroit. Il est tout le temps en train de changer. Un coup, il peut avoir une opinion sur quelque chose, quelques mois après, on voit qu'il est ailleurs. Parfois, on trouve un homme qui est bon, et le même homme, nous le trouvons colérique, méchant. Ses émotions, ses projets sont divers, et même des fois, c'est bouleversant de voir l'homme comme quelqu'un qui ne sait pas vraiment où il va, qui est perdu quelque part. Ça, c'est la condition de l'homme. Et je crois que Pascal, en disant cela, vise juste. C'est la condition de l'homme. L'homme, naturellement, est marqué par cette inconstance. Mais comme aujourd'hui et les semaines précédentes et les semaines suivantes, notre intérêt se fixe sur Dieu, qu'en est-il de Dieu? Est-ce que Dieu est comme l'homme? Nous savons que l'homme a été créé à l'image de Dieu, alors est-ce que le Dieu, qui est l'image originelle de l'homme, est lui aussi inconstant, changeant. C'est très important parce que ça détermine beaucoup de choses de ce que nous pouvons comprendre de Dieu. Et ce que nous comprenons, ce que nous croyons de Dieu, influence notre relation à lui, influence notre capacité ou incapacité à nous lier à lui parler, à prier avec efficacité. Et il est vrai que peut-être, si vous avez déjà réfléchi à ces questions, vous avez peut-être perçu la Bible comme deux livres séparés. Et on vous a peut-être présenté Dieu comme un Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu du Nouveau Testament. Un Dieu juge, un Dieu dur, un Dieu méchant, un Dieu sévère dans l'Ancien Testament, et un Dieu bon, un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de bonté dans le Nouveau Testament. On vous a peut-être présenté un Dieu de l'Ancien Testament qu'on appelle un Dieu de la loi finalement, et un Dieu du Nouveau Testament, un Dieu de la grâce. Et quand on suit cette présentation, finalement, on peut être un peu perdu et se dire finalement, est-ce qu'on a un seul Dieu? Est-ce qu'il existe un seul Dieu ou plusieurs dieux? Parce que si Dieu change, ça remet en cause beaucoup de ce qu'il a pu dire. Ça déstabilise finalement ce que la Bible enseigne. Si Dieu change, si Dieu a une double nature, un double caractère, des attributs contradictoires. Alors, tout ce que j'ai dit depuis quelques secondes est dans la parole de Dieu. Nous voyons que Dieu, à des moments, s'est présenté comme un juge et a été sévère avec les attitudes déviantes des hommes. Nous voyons aussi que Dieu manifeste son amour avec abondance, avec puissance, avec autorité, avec bonté. Toutes ces choses sont présentes dans la Bible. Mais ce que la Bible va nous enseigner, c'est que l'ensemble de ces réalités-là sont présentes en Dieu, ne sont pas opposées. Au contraire, elles se complètent. Elles se complètent et elles sont existantes depuis l'origine parce que la nature de Dieu n'est pas une nature créée à un point donné qui peut se modifier dans le temps, mais la nature de Dieu est éternelle. et ne change pas. Donc quelque part, nous avons déjà un début de réponse. Dieu ne peut pas changer. Parce qu'il n'est pas déterminé par le temps, il n'est pas déterminé par une évolution. Il n'est pas déterminé par les circonstances qui l'entourent. Toutes ces choses concernent l'homme, mais ne concernent pas Dieu. Alors en fait, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est nous allons parler des attributs de Dieu, et particulièrement d'un attribut. Alors, avant de parler de cet attribut, nous allons dire que quand on étudie la Bible, quand on fait de la théologie, quand on parle de Dieu, on distingue habituellement deux types d'attributs. Des attributs qui sont communicables, transmissibles quelque part, à l'homme, et des attributs qui ne sont pas communicables, qui sont exclusivement réservés à Dieu. Et dans les prochaines semaines, probablement, nous verrons plus en détail certains de ces attributs. Mais aujourd'hui, ce qui va répondre à notre question « Dieu change-t-il ?», c'est cet attribut que l'on appelle l'immutabilité. C'est-à-dire que Dieu est immuable. Dieu est constant. Dieu ne change pas. Ça, c'est très important parce que ça va avoir une grande influence sur notre relation à Dieu, sur notre foi en Dieu, sur notre compréhension de ce qu'il peut faire pour nous. Dieu est immuable. Alors, il est immuable, et nous allons prendre quatre termes, il est immuable dans plusieurs aspects. Il est immuable dans son être, il est immuable dans son œuvre, il est immuable dans ses desseins, il est immuable dans ses promesses. Retenons bien ces quatre aspects que nous allons illustrer par un verset chacun. Immuable dans sa nature, dans son être, nous allons voir dans la Bible, dans le verset 6 du chapitre 3 de Malachie. Malachie, chapitre 3, verset 6. C'est un livre qui est très facile à trouver puisque c'est le dernier de l'Ancien Testament. Malachie 3, verset 6 nous dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Donc là, la réponse est assez claire par rapport à tout ce qu'on cherche à dire aujourd'hui. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Sa nature, son être, son caractère, ce qu'il est, ne change pas, ne peut pas changer. Lui-même le dit. C'est dans ce livre de Malachie, il y a cette particularité de voir, en fait, finalement, le prophète parler à son peuple et voir que ce peuple ne connaît plus Dieu, en fait. Ce peuple a perdu le fil de la connaissance de Dieu, le fil de la compréhension de qui est Dieu. Et Dieu, à travers son prophète Malachie, va essayer de réaffirmer ce qu'il est. Et ce qu'il nous dit là, c'est qu'il ne change pas. C'est une certitude, son caractère, son être tout entier est éternel et ne change pas. La deuxième chose que j'ai dit, c'est qu'il ne change pas dans son œuvre aussi. Alors pour cela, nous allons voir un verset qui est souvent très connu et très cité quand on veut dire que Dieu ne change pas et qui a un rapport avec l'œuvre de Dieu. Ce verset se trouve dans l'épître de Jacques, donc c'est de l'autre côté de la Bible, au chapitre 1, au verset 17. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 17, il est dit, et on va prendre le verset 16 qui est juste avant, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Ce verset nous parle justement de l'œuvre. Il est dit « toute grâce excellente, tout don parfait ». Donc ça nous parle de ce que Dieu donne, de ce que Dieu fait pour l'homme. Ces choses-là viennent de Dieu, de ce Père éternel, de ce Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il y a une permanence de son action, une permanence de ce qu'il fait, de ses œuvres, ce qu'il nous donne et nous communique, ne change pas. Parce qu'il ne change pas, il n'y a pas en lui cette capacité, ce n'est pas une capacité, il n'y a pas en lui ce dessein, cette volonté, cette réalité de changement. Parce qu'il est immuable et que son immutabilité est en fait une qualité. Ce n'est pas une déception de constater cela, ce n'est pas de se dire « Ah, mais ça aurait été bien qu'il puisse changer », non. Parce que le fait qu'il ne change pas, nous veut dire que tout ce qu'il promet, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il est, à un moment donné, il le sera demain. Ce qu'il a été pour nos ancêtres, il l'est pour nous et il le sera pour nos enfants. Ça, c'est une vérité extrêmement importante. La troisième chose que l'on disait, c'est qu'il ne change pas dans ses desseins. Et nous allons voir cela dans le psaume 33, verset 11. Psaume 33, verset 11. Il est dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. C'est important parce que cela nous dit que ce que Dieu envisage, ce que Dieu projette dans l'avenir, même si lui n'est pas concerné par le temps, nous le sommes. Et ce que Dieu projette dans la vie, dans l'avenir nous concerne à nous peut-être, et peut-être à nos descendants. Cela ne change pas. Rien ne peut varier sa volonté, rien ne peut faire bouger sa main, parce que ses projets sont issus de sa nature, immuable, durable, qui nous laisse, non pas sans boussole, mais avec un cap qui est marqué. La quatrième chose que nous disions tout à l'heure, c'est les promesses de Dieu ne changent pas non plus. Nous allons voir cela dans le livre de Nombres, donc c'est au début de la parole de Dieu, Nombres chapitre 23 et au verset 19. Il est dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire que les promesses que Dieu nous donne, les promesses que Dieu communique à son peuple, les promesses que Dieu te donne à travers sa parole, dans tes moments de prière, quel que soit le temps où il a fait ces promesses-là, elles ne changent pas, parce qu'il ne change pas, parce qu'il demeure le même, parce que il est celui qu'il était auparavant et celui qu'il sera dans le futur. Nous, nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, marqués par le temps. Nous avons un commencement, nous avons une fin. Des personnes nous ont précédés, des personnes nous succéderont. Dieu n'est pas marqué par cette chronologie et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cette réalité, cette notion est essentielle. Et je vais la résumer en deux conséquences. Elle est à la fois un espoir et un devoir. Elle est un espoir parce que ce qu'il fait, ce qu'il dit, ne changera jamais. Et donc, nous pouvons nous appuyer sur sa nature. Nous pouvons nous appuyer sur ce qu'il est. Nous n'avons pas à craindre le lendemain, nous n'avons pas à craindre le futur parce qu'il ne change pas. Et parce que ce qu'il a promis, ce qu'il est un solide rocher, une solide fondation pour notre foi. Alors que nous sommes inconstants, lui le demeure constant, et nous pouvons nous appuyer sur lui, alors que nous ne pouvons pas nous confier dans les hommes. Les hommes nous décevront toujours, les hommes sont trop variants dans leur motivation, dans leurs projets, dans leurs aspirations, pour que nous puissions fonder notre vie sur eux. Par contre, Dieu, oui, il ne change pas. C'est donc un espoir, mais c'est aussi un devoir, parce que trop souvent, dans le monde chrétien, nous parlons de promesses, nous parlons de bénédictions, nous parlons de belles choses. Et nous disons, le Seigneur va faire de grandes choses dans ma vie. Le Seigneur m'a dit ceci, m'a dit cela, le Seigneur va me donner. Et nous avons une relation à Dieu qui est une relation finalement de consommateur. Une relation qui est simplement déterminée par le fait qu'il nous a donné, promis, ou donné par le passé quelque chose. Mais le fait que Dieu ne change pas, cela inclut au fait aussi que tout ce que nous lisons dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous parle de Dieu. Et que le Dieu qui est juste, qui est saint, et qui se met en colère contre un peuple qui le désobéit dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu dans le Nouveau Testament. Il est juste, il est saint, et il attend de nous une obéissance sans faille. Mais à l'envers, cela nous demande de lire l'Ancien Testament d'une autre manière. Nous percevons le Dieu du Nouveau Testament comme ce Dieu d'amour. Et nous pensons presque que l'amour est inventé par Jésus. Non. L'amour que Jésus prêche est la conséquence de la loi, et la conséquence de tout le travail de Dieu avec Israël. Tout ce que Dieu a fait avec Israël dans l'Ancien Testament, c'est un témoignage d'amour, un témoignage de bonté, un témoignage de fidélité. Et le peuple d'Israël ne se trompait pas. Parce qu'une des phrases clés de la louange d'Israël, c'était, quand il s'adressait à Dieu, « Car ta miséricorde durera toujours, lent à la colère, riche en bonté, car ta miséricorde durera toujours. » Donc le peuple d'Israël, même s'ils étaient en contact avec cette sainteté qui peut tuer, cette sainteté qui peut juger, ils réalisaient que leur Dieu était un Dieu qui était bon, qui renouvelait ses bontés à leur égard. Alors ne départageons pas le Dieu de la Bible en plusieurs dieux, selon que ça nous plaît, selon nos besoins. Si nous sommes dans la difficulté, nous voulons juste de l'amour. Non, nous avons un Dieu qui est juste, qui est vrai, qui ne change pas. Et nous devons l'accepter comme il est, et ne pas le redéfinir selon nos propres pensées, nos propres désirs. Malheureusement, aujourd'hui, au XXIe siècle, et depuis la fin du XXe siècle, le gros danger et la grave erreur de l'homme, c'est d'avoir voulu accepter un Dieu qui lui plaise. Et aujourd'hui, nous trouvons des personnes qui ne vont pas supporter peut-être la lecture de la Bible et donc ne la liront pas. Nous trouvons des livres, nous trouvons des théories, des enseignements qui veulent prêcher un Dieu finalement un peu facile, que dans la grâce, que dans le pardon, que dans un laisser-faire. Alors qu'en faisant cela, nous égarons les gens. Nous oublions que Dieu ne change pas. Et ce qu'il est hier, il est aujourd'hui. Et rien dans son caractère ne peut subir la variation. Notre inconstance répond à sa constance. Nous sommes, comme le dit Pascal, inconstants, changeants dans le temps. Et cela est une conséquence du péché, une conséquence d'une vie sans Dieu. De l'autre côté, nous avons Dieu qui est constant et ne change pas, qui dure dans le temps. Et sa constance doit venir se déverser sur nos vies. Alors je vous ai dit que le fait d'être constant, de ne pas changer, ce n'est pas un attribut qu'il peut nous communiquer. Et c'est important de le dire. Vous ne devez pas prier demain, à partir de demain en disant « Seigneur, fais de moi quelqu'un qui ne change pas ». Non, nous sommes des hommes, nous sommes marqués par l'hésitation, nous sommes marqués par le doute, nous sommes marqués par l'incrédulité, nous sommes marqués par les épreuves, les choix, les émotions, les envies qui peuvent changer dans le temps. Mais ce que Dieu peut nous donner, c'est de la stabilité. C'est que sa constance à lui soit un point de fixation dans nos choix, dans notre vie, dans notre amour pour lui, dans nos prières, dans notre comportement, dans notre obéissance. Toutes ces choses doivent être influencées par le fait que lui ne change pas. Et en gardant le cap sur celui qui ne change pas, je peux rendre ma vie beaucoup plus stable, beaucoup plus droite par rapport à lui. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à poser vos questions.